And after having spent so many years researching the history of psychoanalysis in France and the place of Lacan within it, you decided to concentrate on Freud. You can feel this question coming, right? Why did you decide that it was time to spend energy and effort, because an enormous amount of effort must have gone into this book, on producing a new biography of Freud?
Pourquoi il y a aussi des formes en ce moment précises
de papier. Il n'y avait aucune biographie de Freud en France. Aucun auteur français n'avait écrit de biographie de Freud. Aucun auteur français n'était allé aux archives de Washington.
So no French author had written a biography of Freud yet, and no French author had been to the archives in Washington.
Il y a en France beaucoup d'essais sur Freud, mais pas de travail historique qui était l'apanage du monde anglophone. La dernière biographie sur archives, c'est Peter Gay.
So lots of intellectual essays on for lots of publications like this in France, but nothing similar to what was the strength of the English speaking world is the biographical historical work.
Ensuite, il y a eu Emilio Rodriguez, mm-hmm. mais c'est très particulier. J'ai bien connu. C'est pas une biographie de Freud. C'est une historiographie des biographies de Freud.
Mm-hmm. So. Emilio Rodriguez's work was, that she knows very well, it's a bit different because it wasn't really a biography, it was historiography of all the biographical work.
Et donc,
so that's a different matter.
Donc, j'ai eu envie, après toutes les batailles sur les archives, le fait que les archives de Washington sont ouvertes, pratiquement, mm-hmm. j'ai pensé que c'était le moment de faire le point sur Freud, avec une nouvelle biographie. Ce qui était nouveau pour moi, c'est que je venais après tout le monde, alors que sur Lacan et l'histoire de la psychanalyse, j'étais avant.
Mm-hmm. So her previous work was new for her, that she was used to being in a pioneering situation, to being the first, in terms of the history of psychoanalysis in France and for Lacan as well. But in this case, she came after everybody, all the other mm-hmm. historical biographical work, and the occasion was really the opening of the archives in Washington to scholars and researchers.
If I may interrupt you there, and I'll probably do it again, the fact that in 2014, which was what, 90 years after the creation of La Société Psychanalytique de Paris, environ.
1926, la création.
More or less 90 years.
Environ 90 ans après la création
oui, oui.
de la SPP.
The fact that there is no biography written by a French author on Freud in 2014, what, according to you, does it say about Freud's reception in France? Yeah. What does it say about how Freud had been read in France during that 90-year period?
Qu'est-ce que ça implique sur la réception de Freud en France, le fait qu'il n'y a pas eu de biographie de Freud et la lecture, la façon dont Freud était lu?
Il n'y avait pas de biographie de Freud, mais il y avait autre chose que des travaux historiques. Et la réception de Freud en France, je l'avais déjà traité dans mes autres livres. La France a été pendant tellement longtemps le pays qui, après avoir été très anti-freudien au début, c'est le pays où il y a eu le plus d'anti-freudisme en France, mais c'est aussi le pays où on a été le plus freudien.
Okay, so she's written elsewhere about the reception of psychoanalysis in France, of Freud in France. And in some ways, it was the country with the most receptive to psychoanalysis, but also at the very same time, the most anti-Freudian.
La germanophobie était considérable, je l'avais montré. Freud était haï.
So Freud was detested because of the extant anti-German sentiment.
Et Freud était adoré. Mm-hmm. Il y avait les deux.
Freud was also adored.
Il avait été très bien accueilli par les surréalistes, les écrivains, beaucoup de littéraires très bien accueillis. Et puis on a eu Lacan. Un extraordinaire lecteur de Freud. Mm-hmm.
So there was the reception by the writers such as the surrealists in particular, and then of course there was Lacan, who was an extraordinary reader of Freud.
Mais du coup, on n'a pas eu besoin autant que le monde anglophone d'avoir des historiens. Les historiens sont des héritiers.
So less need for historians, because historians are in a certain way inheritors. Mm-hmm.
Et donc Lacan a occupé toute la place dans la rénovation de la lecture de Freud. Mm-hmm.
So Lacan took up all the space in the reading of Freud.
Et en même temps, la France, depuis maintenant 30 ans, a pris un retard considérable sur la lecture de Freud.
Mm-hmm. And recently, France has lost a lot of ground in the reading of Freud.
Un retard considérable, non pas sur le commentaire de Freud, mais sur la question de l'histoire de Freud.
Mm-hmm. Not on the commentary on Freud and psychoanalysis, but on historiography. Mm-hmm.
Je vais dire quelque chose de très étonnant pour des Anglais et des Américains, c'est que la plupart des psychanalystes français, ne connaissent pas la vie de Freud.
This might be very surprising or not. That's an interesting question, actually, for an English audience, an English psychoanalyst. But the French psychoanalysts really don't know Freud's life.
Ils connaissent la vie de Freud à partir d'Ernest Jones. Mm-hmm. Et encore. Mm-hmm.
So they may or may not read Ernest Jones.
Ils n'ont pas beaucoup lu Peter Gay. Mm-hmm. Les Français, et surtout, les Français ne savent rien sur Vienne, sur l'extraordinaire bouillon de culture, non, les psychanalystes. Yeah.
Because,
I mean, again, sorry to interrupt, and we can probably discuss this in another context, but, I mean, you do have the work of Jacques Le Rider, for example.
Oui, mais Jacques Le Rider est un ami. Mm-hmm. Il n'est pas lu par les psychanalystes.
Right. So, yes. Historians such as Jacques Le Rider, they're not read by psychoanalysts.
J'ai fait une enquête. La quasi-totalité, je dirais 80% des psychanalystes français ne connaissent pas le nom de Jacques Le Rider, ne connaissent pas le nom de Karl Schorske, et ne connaissaient à peine le nom de Yerushalmi. Mm-hmm.
So most French psychoanalysts, 80%, don't know the name of
Le Rider, Le Rider,
Le Rider. Les psychanalystes français connaissent pas, vaguement le nom, mais non, ils lisent pas. C'est comme ça. Et moi, ça m'exaspère. Mm-hmm. Ça m'a exaspéré cette ignorance. En revanche, les historiens, les sociologues, les intellectuels connaissent très bien Karl Schorske, Le Rider, mais pas les psychanalystes français. Mmh. Et les psychanalystes français ne connaissent pas les travaux américains sur Freud.
Yeah, so there's a difference between sociologists, disciplinary differences between psychoanalysts and others as to what they read and what they...
Tu es dans l'air français, tu es dans l'air francophone aussi, tu as dû t'en rendre compte.
Ouais.
C'est la même chose.
Ouais, absolument. Now, I mean, this book is very much a life of Freud. And it doesn't call itself, and it doesn't pretend to be an intellectual biography of Freud. It is written, and I have to say, it's a cracking good read. If you haven't read it, then the moment you start, it's what's this awful word that it's unput downable. because it's a cracking good read because Elizabeth's narrative style, which some of you may know from her work on Lacan, really draws the reader in such a way that you think this is a biography that is exciting and engaging, and it almost reads, I have to say, like a novel with a cliffhanger. So you want to carry on. And I'm sure some historians will and have hated you for adopting that style, but to me this narrative style is one of its strengths. Now,
les attaques
venues de qui?
D'autres historiens.
Non, pour le sens de la narration. Non. Je ne suis pas attaqué beaucoup par les historiens. Je suis attaqué en France par les psychanalystes. Je parle de Jacques Le Goff, le grand historien,
ouais.
Qui m'a beaucoup encouragé à faire la biographie de Foucault. Vous connaissez Jacques Le Goff, c'est l'historien français qui a fait une magnifique biographie de Saint-Louis. Mm-hmm. Tu traduis?
Oh, I got too caught up in the narrative. Jacques Le Goff, the historian, has written a magnificent biography of Saint-Louis.
Jacques Le Goff, qui était un grand lecteur de Freud.
And he himself was a great reader of Freud.
Un jour, il m'a dit, je ne connais pas la vie de Freud. Je ne la connais pas. Il avait lu Jones. Il avait lu Peter Gay.
So, yes. So he told her, I actually don't understand. I don't have a sense of Freud's life. I've read Jones. I've read Peter Gay. But
je voudrais en savoir beaucoup plus.
But I want to know more. There's something.
Ça, c'est l'héritage de l'école des annales.
Ouais.
Et il voulait aussi savoir, moi, l'intention, la différence avec les autres, c'est Freud à Vienne.
So,
Freud viennois. Je voulais Freud viennois.
So what she wanted to present, as well as filling in these kinds of details of the life, but also situate, show a portrait of Freud of Viennese. In that context.
Well, Freud de Peter Gay, il est anglais. Hein?
Which brings me rather nicely, actually, to the question I was going to ask, which I haven't forgotten about. I mean, your French biography, which was written initially, as you said, to fill a gap in French historiography. Your French biography has now been translated in English. And in its English version, it's an addition to, I've lost count, right?
Une biographie française, mon biographie française a été maintenant traduite en anglais.
Ah oui.
C'est une addition, ça s'ajoute.
Je m'attendais pas.
It's an addition to, I've lost track, the 20, 30, 40, 50 biographies. Starting with Whittle's in 1923, I think. It's an addition to all the biographies that we already have in English. So how does your Freud for the English reader differs from the Freud that, in a sense, we already knew? From Jones, from Peter Gay, from, earlier this year, another intellectual biography was published by Joel Whitebook in June this year. So how does it stand out from those other books? How is your Freud?
Donc, ce qui distingue ton Freud pour le lecteur anglais de toutes les autres biographies, parce qu'il y en a eu beaucoup à partir du presbytère, en passant par Jones et maintenant la plus récente. Donc qu'est-ce qu'il y a de distingue pour le lecteur anglais?
D'abord, je vais dire une chose. Je craignais que ce livre ne soit pas traduit en anglais.
Yeah. So she didn't think, or she feared that this book would not be translated in English. She didn't quite expect it, actually.
Précisément parce que il y en a beaucoup.
Mm-hmm. Because of, yeah, because of this.
Et que les meilleurs travaux aujourd'hui sont de langue anglaise.
And well, actually, the best books in the field are English ones.
D'ailleurs, toutes les références sont des travaux anglais.
So she's referring to lots of in this book to lots of English historiographical work.
Je crois que la différence avec les travaux américains ou anglais aujourd'hui, c'est que j'ai fait la synthèse, en même temps. De toutes les approches possibles de Freud. C'est-à-dire la partie viennoise, c'est une biographie qui est divisée en quatre. Mm-hmm. Quatre parties. Mm-hmm. Dont le modèle, c'est le Saint-Louis de Jacques
Gott. So she's actually synthesized lots of different approaches you could take to biography and to Freud. And there's actually four parts to it. And there's a modeling in Le Goff Saint-Louis that's at work.
Donc, c'est ça le modèle. Et il y a une synthèse du Freud viennois, du mouvement psychanalytique, la création du mouvement psychanalytique. Ensuite, le Freud de la vie quotidienne.
Okay, so the first part is a synthesis of Freud, the Viennese Freud, and the creation of the psychoanalytic movement. And then the second part is everyday life.
Mm-hmm. Par exemple, il y a toute la famille Freud.
So all about the family, the family relationship. So
jusqu'à aujourd'hui.
So Freud in his family context, going down even to mentioning
il
today.
Y a le Freud face au nazisme.
Mm-hmm. Yeah. So it's Freud, also Freud facing the Nazis, the rise of the Nazi threat as well. That's one aspect of it.
Freud juif dans ses rapports avec
Freud and his relationship to Judaism and to Zionism and to Palestine.
Freud et les femmes. Freud en famille. Et ça, c'est le premier livre qui fait la synthèse de tous ces aspects. Mm-hmm. Parce que il y a tellement de livres historiques sur Freud dans le monde anglophone que toutes ces parties étaient traitées séparément.
Yeah, so it's actually a tendency that she observed, and there's all these other works on Freud, that all these aspects, you took one position and followed one thread across in a lot of these other books.
Mm-hmm. Parce que, après la publication de Peter Gay, ça avait relancé les travaux sur Freud. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, dernier point, ce qui caractérise mon Freud, c'est la lutte interne de Freud entre lui et lui-même, entre lui et lui, c'est-à-dire Faust et Mephisto.
So one theme, one unifying theme in her book, finally, is that of Freud. Freud's battle against himself. So that's it's a recurring theme in the book, that the Freud against himself, Freud working thing,
Arracher l'irrationnel, arracher l'irrationnel vers le rationnel.
Mm-hmm. So in terms of this battle from the irrationality and versus rationality.
Et j'ai voulu montrer que Freud est toujours dans la tentation de l'irrationnel. Yeah. Mm-hmm. Toujours.
Yeah. She's always wanted to show Freud's attraction to irrationality, whilst also positioning himself.
Avec des références très claires, il le dit lui-même. Uh-huh. Goethe, il parle sans arrêt de son combat avec l'ange et Jacob, avec son combat permanent pour arracher une discipline à l'irrationnel.
I mean, that's definitely something I picked up. I mean, apart from the extraordinarily detailed historical research that has gone into this, and I think this is also the first biography that actually has a complete list of Freud's patients. at the end.
I
hadn't seen this in any previous biography or historical work, and the list runs to a good 4 pages. With my own interest in the history of psychoanalysis, I find this an incredibly interesting and valuable tool for pursuing my own historical interest. And it's just one example of... You see, I'm answering my own question for you now. It's just one example of how this book does also stand out from other biographies of Freud in English, i.e. it stands out because of its historical detail and the source materials and the archives on which it draws. But to return to my point, I was struck by your portrayal of Freud as a man who is, to use Nietzsche's term, human, all too human, in his daily struggles with his followers, who obviously at one point always become to some extent detractors, with psychiatry and with the disciplines of which he thinks that they will never accept his ideas, but most importantly with himself. So the portrait that you paint of Freud is a portrait of a man who is struggling with himself. And to me, that actually, unlike with Jones' portrayal of Freud, that showed, it demonstrated a picture of a man who actually was, human, as I said, perhaps all too human.
Ça, c'est
un Freud qui est très humain.
Oui, mais c'est pas la même époque. Jones fait le premier travail.
C'est pas le premier travail, mais
c'est la
première vraie biographie.
Ouais, c'est le premier travail sérieux.
Avec les archives.
Il faut reconnaître au fondateur des biographies. Jones fait la première biographie. Digne de son. C'est-à-dire que.
Digne de son.
Oui, parce que Jones se fait historien. Il se fait historien.
But Jones, via this first biography, makes himself into a historian. So he's.
C'est quand même trois volumes. Je dirais pour comparer que Jones, c'est le Joinville de Freud. Mm-hmm. Joinville, c'est le premier historien de Saint-Louis. Mm-hmm. Mm-hmm. Et c'est en même temps un chroniqueur, un acteur.
He's both a participant and an observer and a chronicler, so that's Jones.
But Jones is Freud, and I think we agree. Jones is Freud.
Jones fait. C'est pas une hagiographie. C'est ce qu'on appelle une histoire officielle.
So it's not, she doesn't think Jones's book is a hagiography, but it's official history.
S'il n'y avait pas Jones, je pense que l'œuvre de Freud ne se serait pas implantée de cette façon-là dans tous les pays du monde.
So, an official history is really important to the implantation of psychoanalysis internationally.
Les historiens ont un rôle capital de passeur.
Yes, and because of that, Jones would never use phrases like you do, because you call Freud the patriarch of psychoanalysis. You call Freud. I don't have a problem with that. Far from it. But I think Jones, because he was identified and supported by Anna Freud, of course, and in a sense also by Freud himself, as the official biographer, paints a picture of Freud that is very different from yours.
Yeah, sure.
Yes, it's not a hagiography, but at the same time, Jones's Freud is a different man, I would say.
Ah, it's a different, it's an autre. Do you think, well, what about gay Freud?
Yes, you can ask questions.
as you're speaking, because each of these important
parts.
Il y a le foot de Jones, il y a le foot de Peter Gay. Il y a le foot de caractère.
Il y a un historien qui a beaucoup compté pour moi. J'en parle, c'est Henri Ellenberger. Un historien canadien, mais qui a écrit en anglais.
He wrote the massive volume, The Discovery of the Unconscious,
voilà.
Published La Découverte de l'Inconscient.
Oui, Histoire
de la Découverte de l'Inconscient.
Et moi, c'est moi qui ai les archives d'Ellenberger en France. Mm-hmm. Et il a été le premier à défaire, non pas à annuler, mais à défaire l'historiographie officielle, pour montrer Freud immergé dans la longue histoire des découvreurs de l'Inde.
So a historian who was very important for Elizabeth when she wrote the book is the Canadian historian Henri Ellenberger, who in 1970, I think, if my memory serves me well, was subsequently also translated in English, wrote this massive volume, The History of the Discovery of the Unconscious, and he was the first, according to Elizabeth, to unpack, but also to, in a sense, destabilize, I hope I'm not putting words in your mouth, the official history of psychoanalysis and the official portrait of Freud that had been painted by Ernest Jones.
J'ai fait une nouvelle édition en français de Ellenberger, du livre d'Ellenberger avec une préface. Et Henri Ellenberger a été complètement récupéré aux États-Unis par les Freud Bachin.
So Freud bashers actually took over and recuperated Ellenberger's work in the States for a different purpose, actually.
C'était une incroyable bataille dans les années 90 qui n'a pas eu lieu en France du tout, mais aux États-Unis, entre moi et les Freud bashing autour de Henri Ellenberger.
So there's this black battle that played out in the 1980s?
Oui, les années 90
and a bit later between those historians who are...
Well, the Freud bashers, so those historians, we know who they are. We don't need to mention them. We never do in this house.
They're used to Ellenberger and...
Et quand, évidemment, les Freudiens orthodoxes de l'UPA refusait encore d'ouvrir les archives de Washington. Moi, j'ai milité en 1995 pour l'ouverture des archives avec les anti-freudiens, d'accord, avec les freudbachines. Je les ai très, beaucoup fréquentés. Et puis à un moment donné, quand ils ont commencé à inverser, c'est-à-dire à réviser l'histoire au point de faire de Freud un escroc, un monstre, un salaud, là, j'ai dit, c'est trop.
So for many years, Elizabeth campaigned for the Freud archives in the Library of Congress in Washington to be opened completely to researchers, alongside the so-called Freud bashers, who at the time, and in a sense, even now, claimed that Freud and the history of psychoanalysis had been kept on the wraps on account of the closed archives, but at one point she realized that actually the Feuerbachers could no longer be considered to be worthy companions of her cause on account of their own agenda. I'm constructing a narrative, Elizabeth, but I hope I'm capturing what you've been saying.
Autrement dit, aujourd'hui, il y a deux batailles complètement différentes dans le monde psychanalytique. Il y a d'un côté les querelles entre psychanalystes, lacaniens, anti-lacaniens, freudiens, etc. Et puis les querelles entre historiens. Deux choses différentes. Mais c'est aussi violent.
two violent confrontations between different historical traditions, different historical outlooks, and also between psychoanalysts themselves.
Et donc, moi je suis, au bout de 40 ans de travaux quand même, je suis autant attaquée par les destructeurs de Freud, Freud-Bachy, que par les psychanalystes français. Je dis français, parce que dans le monde entier, le mouvement psychanalytique a changé. Le mouvement psychanalytique a accepté l'histoire, sauf en France. Pas encore. Ils vont être obligés.
Which again brings me to my next question. I mean, I'm trained.
Oh wait.
Oh sorry. I do apologize.
Well. She's been, her work has been attacked by French psychoanalysts, but not psychoanalysts elsewhere who have a much greater historical sense, but on the other hand also by the Freud bashing gang, who shall remain nameless, that we know. Yeah, as Annie said, we know who they are.
Yeah, we know who they are. Yeah. Now, what I felt I had to ask you, given your own history as a scholar and as a historian, is the extent to which your previous work on the history of psychoanalysis in France, and particularly your work on Lacan, made it easier or more difficult for you to write this book? And the reason why I'm asking the question is that in my limited experience, although, you know, I've been around for a number of years, many psychoanalysts, especially in France, read Freud through Lacan. So, by which I mean that their training in the Lacanian tradition and the fact that Lacan, to use W.H. Auden's words about Freud after his death, has become a whole climate of opinion, the fact that French culture is so permeated by the Lacanian tradition now makes it almost impossible for them, i.e. my fellow psychoanalyst friends in France, to read Freud without a Lacanian lens. Oui. Without a Lacanian...
Est-ce qu'on peut lire Freud sans Lacan?
Voilà.
Surtout en France, parce que à cause de ce...
I'm sure it is. Explain. By the way, Lacan is only mentioned twice in the whole of this book. which I personally think.
J'ai écrit 2000 pages sur Lacan et la France. 2000 pages.
No, I was going to say the fact that Lacan is only mentioned twice is one of the great.
Il n'y a pas que Lacan qui n'est pas là. C'est la totalité des psychanalystes français ne sont pas là.
Bon, il y a Marie Bonaparte.
Oui, mais je parle de psychanalyse française postérieure.
Ben oui.
Ouais.
Marie Bonaparte, elle est là parce qu'elle faisait partie de la famille Freud.
Ouais, d'accord. Ouais. Je suis d'accord.
Ça m'a d'ailleurs... Pardon. Ça m'a posé problème, puisque j'avais déjà écrit sur elle.
Mm. Okay, well, so in fact, it's not only Lacan that's not mentioned, there's no mention of French psychoanalysis, which is in this book, apart from Marie Bonaparte, but only Marie Bonaparte is treated as one of the Freud family entourage, family members. That's how she's not in terms of her, not in terms of her role in France, actually, it's just in terms of her relationship to Freud.
Marie Bonaparte est dans ce livre, dans ses relations. Avec Freud à Vienne et à Londres, pas à Paris. C'est pas l'histoire de la psychanalyse en France. C'est fini, ça. Alors, deuxième chose, très vite, je n'aurais jamais pu écrire ce livre avant d'avoir fait toute l'histoire de la psychanalyse en France pour Lacan.
Oh, yeah.
Pourquoi pas?
But you know, she never could have written this book without having first done the work on psychoanalysis in France and on Lacan. So why not?
Fallait d'abord que je devienne historienne.
So et to write about Freud, she had to become a historian.
Je suis devenue historienne par l'histoire de la psychanalyse en France et par Lacan.
And that's what writing those books is what turned her into a historian.
To the work
that she did on these psychoanalysis.
Ma thèse d'histoire, parce que j'ai été la première. On devient historien quand on apporte quelque chose.
So literally she became a historian in terms of university accreditations as well.
But et ensuite, so, je pouvais me permettre d'aller vers Freud.
Mm-hmm.
Je ne pouvais pas, dans les années 80, le domaine à explorer dans ces années-là, c'était la France. Il n'y avait rien.
Mm-hmm.
Sauf qu'il y avait beaucoup.
Donc,
la deuxième
question. Do you want to translate?
So basically, but there was there was in terms of that work that needed to be done in France, that was the work that needed to be done.
Ensuite, quand tu dis qu'en France, on ne peut pas lire Freud sans Lacan, ce que tu disais, c'est-à-dire on lit Freud à la lumière de Lacan, c'est évident. Mais, c'est plus que ça. C'est-à-dire que les psychanalystes français, non lacaniens, je dis bien non lacaniens, lise Freud contre Lacan.
Okay, so in terms of the question of in France, Freud being read in the light of Lacan, but also French psychoanalysts who are not Lacanians actually read Freud contre Lacan, in opposition to
Lacan. Donc Lacan occupe encore.
So,
une position centrale.
So that just shows the centrality of Lacan's position.
Et
there,
so tu as raison de dire.
Yeah, can't get away from
en France, on ne peut pas lire Freud sans Lacan.
And that's actually very right.
Soit contre, soit avec. Alors, ça, c'est une chose que j'ai compris très tôt, quand j'ai commencé à faire de l'histoire.
So she understood that fact, that she can only either... against or with Lacan. She understood this once she started to write history.
Moi-même, j'ai lu Lacan avant de lire Freud.
Yeah. So it's the same for her, she read Lacan first.
Alors, j'avais lu Freud un ou deux livres très jeune, à 15 ans. Ma mère était psychanalyste. Ma mère était psychanalyste, ça compte.
Yeah. Her mother was a psychoanalyst, so she read at 15 a couple of Freud books.
Ma mère était totalement anglophone. Elle a travaillé avec Bowlby et Anna Freud. Elle a inventé la théorie de Bowlby en France.
So, yes, her mother worked with Bowlby and.
May we mention her name?
Jenny
Aubry, sorry. I hope I'm not
Jenny Aubry.
For those of you,
du nom de son son deuxième mari.
Yeah. Voilà. Yeah. Who are interested? Yeah. So Elizabeth's mother, Jenny Aubry, was the one who introduced Bowlby into French psychology.
Et comme ma mère avait le même âge que Lacan, mm-hmm. elle n'était pas lacanienne, elle était compagnon de Lacan. Mm-hmm.
She is more of a friend and companion to Lacan. They were the same age, her mother and Lacan, exactly the same age. So she can't say that her mother wasn't in fact a Lacanian, more of a contemporary.
En France, elle a suivi Lacan. Mm-hmm. Elle a été formée à la Société psychanalytique de Paris, mm-hmm. mais elle a suivi Lacan.
But she accompanied Lacan, nevertheless.
Elle n'a pas été.
Elle
n'a pas été élève.
But not as a disciple or a student.
Avec Lacan. Mm-hmm. Moi, je suis élevée là, dans le lacanisme. Mm-hmm.
So that made the fact that Elisabeth was actually raised in the middle of Lacanian movement. She was right at the.
J'ai fait mon analyse avec Octave Danoni et j'ai.
Oh. What's happening here? I'm not sure what's. I don't think I did anything.
Et j'ai été membre de l'école freudienne de Paris, donc lacanienne.
Oh, so yes, so her own analysis was with Octave Manoni, and she was member of the École freudienne de Paris. She Elisabeth.
Donc,
which de facto actually made her a lacanienne.
Non, donc. Lacanien.
So,
pour les anti-lacaniens.
For the anti-lacaniens.
Et quand j'ai écrit l'histoire de la psychanalyse, je me suis mis à lire Freud, la réception de Freud en France, sans Lacan. Parce qu'on ne peut pas être historien lacanien. C'est impossible.
All right. So
sinon, il y a cette confusion.
So when she wrote History of the Psychoanalysis in France, the reception of Freud in France, so she put Lacan aside and she read Freud because you can't do history as a Lacanian, you have to do it otherwise.
Dans un deuxième temps, quand j'ai décidé de faire la biographie de Lacan, 1993, j'ai eu contre moi les Lacaniens, qui trouvaient que ce livre était anti-lacanien. Et les anti-lacaniens français, tout ça français, qui me traitaient de lacanienne.
Yeah. Oh, right. So, when she wrote the 1993 book on Lacan, Biography of Lacan, again, in France, it was a complex situation because the Lacanians considered her as an anti-Lacanian and
the anti-Lacanians said that the book was too Lacanian.
Donc, alors, j'avais mis en exergue de la biographie de Lacan.
Robespierriste,
la phrase de Marc Bloch.
Voilà. Voilà. Anti-Robespierriste.
J'ai eu Robespierre, anti-Robespierriste, laissez-nous tranquille et dites-nous qui est Robespierre.
Voilà.
Ah,
yes.
Alors, ça
n'a
pas marché auprès des
spécialistes.
Ça.
So, yes, the
epigraph
of the book was.
It's a famous phrase by the historian Marc Bloch that says, Robespierrists, anti-Robespierrists, finally tell us who really was Robespierre.
Voilà. Ça continue en France. Mm-hmm. Alors, j'ai été parfaitement entendu en France et dans le monde entier par les historiens, les intellectuels, mais pas par les psychanalystes français.
So French psychoanalysts couldn't really hear what she was doing in that book, although academics and historians did get it, but there was a problem with the reception.
C'était violent, je me souviens, c'était violent.
Oui, je me souviens.
Les Lacaniens me disaient que j'avais détruit Lacan.
The accusation from the Lacanians that she had destroyed Lacan.
Et les anti-Lacaniens, français, que j'avais fait l'apologie de Lacan.
Oh, yeah. An French anti-Lacanian to say she was an apologist for Lacan's excesses.
Et quand même, une anecdote. Je me souviens d'une discussion, d'une violence incroyable avec André Green, le psychanalyste.
So she remembers an argument, a really violent argument with André Green.
Il haïssait Lacan.
He hated Lacan.
Mais il était intelligent. Et il m'a dit,
intelligent nevertheless,
vous avez pris une telle distance pour montrer qui il était sous toutes les facettes que vous allez lui donner une légitimité.
That you've distanced yourself so much to show who he was from all angles that you were going to legitimize him.
Il a ajouté, ça, c'est haïssable.
And that's
d'avoir fait ça.
Detestable to have done that.
Alors, j'ai répondu, mais monsieur, il avait la légitimité. Il attendait son historien. Bon.
But so her answer was, but Monsieur, he had legitimacy. Of course, he did. What he didn't have was a historian.
Parce que les psychanalystes comme Green, Laplanche, peut-être tous ceux de cette génération, ils souffraient d'une très grave névrose. Ils auraient voulu avoir la place de la.
So all these analysts of that certain generation, such as
Laplanche, Pontani,
Green,
membre de la de l'UPA, voilà.
They wanted to be in the place of Lacan.
Au fond, je connais très bien, j'ai beaucoup parlé. Ils auraient eu envie qu'on fasse leur biographie à eux, et pas seulement l'histoire de la psychanalyse en France. Et la centralité de Lacan, qui était devenu mondial, parce que c'est un très grand penseur. Il n'y avait rien à faire. En France, il n'y avait rien à faire.
So they all would have wanted their own biographies. Instead, they were players in the history of psychoanalysis in France, where the centrality of Lacan, who was, after all, a very great thinker, was inescapable.
Pour les psychanalystes, il fallait être soit hagiographe, soit destructeur. Et moi, j'ai pas fait ça. Freud ne pose pas les mêmes problèmes.
For Lacan, in terms of Lacan, for the psychoanalysts, for the French psychoanalysts in particular, you had to be.
There's only two options.
Hagiography or destruction. Or
Freud est un penseur devenu universel. C'est beaucoup plus tranquille. Pour un historien, c'est plus tranquille.
So it's a calmer terrain for a historian, that of Freud, because he's learning. There's a distance. There's much more of a distance, of course.
Continue à être détesté par beaucoup de gens, mais c'est pas difficile.
I want to bring you back. I'm going to ask you.
C'est un homme beaucoup plus sympathique.
Freud. Oh, oui, absolument, absolument. I want to ask you one more question before I open it up to the audience.
Mais Lacan a du génie, hein. Lacan a du génie. Bon. Mais Lacan, c'est comme Salvador Dali, c'est comme, je veux dire, c'est explosif. C'est passionnant d'écrire une biographie de Lacan, on s'ennuie jamais.
I want to bring you back to Freud, tempting as it is to talk about Lacan. And I'm just going to ask you one more question, as I said, and then open it up to the audience. This is a book in translation, and I have to say, I think the translation is excellent, because I also had, and I really mean that, I had the pleasure of reading the original when it came out in 2014. And then the second pleasure of reading the translation when it came out, and it's an absolutely fantastic translation. But the transmission, and that's the point I want to make, the transmission of Freud in France, in England, you know, now in all the 17 other countries in which your book will be translated, the transmission of Freud cannot be dissociated from acts of translation. La transmission de Freud ne peut pas être séparée de la traduction. As a result of which, I think, in the Anglophone world, we've also adopted a certain view of Freud, because Strachey's translation has rendered Freud in a way that has crucially affected the portraits that have been painted of him. Now, la traduction de Freud par Strachey,
qui la transmission dans le monde anglophone, parce que ça et des portraits.
Il est devenu un auteur anglais.
Et voilà. La façon dont il a été décrit, les portraits qui ont été.
Ou un auteur plus scientifique, un auteur. Qui bon ça mais ma question
la langue anglaise domine le monde.
Voilà, mais ma question est la suivante. So in French it took much longer for the complete works of Freud to be published, right? And I'm not even sure the project is finished. I don't think it's even finished now. So how, according to you, has the translation of the complete works of Freud affected the image that the French have had and will continue to have for a long time of Freud?
The French translation.
Yes.
Donc, comment la traduction française des écrits de Freud a affecté l'image que les Français ont eu et continuent d'avoir sur Freud? Comment ça a joué là-dessus?
Ça ne joue pas.
Ça ne joue pas?
Non. Parce que maintenant, en France, on a. Mais ce n'est pas moi, parce que j'ai fermé mon truc. Oui, non, ce n'est pas moi. La traduction de Freud en France est une histoire effrayante. La traduction de Freud en anglais, c'est un homme, un auteur, c'est Strachey.
Not anymore, really, but
so most people still use
the standard edition.
Yes, it's quite a story. It's different because there's a whole saga surrounding the French translation.
On se réfère toujours à la standard. Alors, chez nous, c'est comme pour Heidegger. La traduction de Freud est devenue une querelle nationale en France. Alors,
it's with the translation of Freud, like it has been with the translation of Heidegger in France, it's become a national debate.
C'est comme les querelles entre analystes et entre historiens. Donc, chez nous,
c'est
une histoire que j'ai racontée dans l'histoire de l'obscurité en France. Il y a à peu près autant de traductions de Freud que d'écoles analytiques. C'est-à-dire, il y a Freud traduit lacanien depuis l'allemand, il y a Freud traduit par Laplanche et Laplanche et son équipe, qui est soi-disant un Freud non allemand, j'insiste, non allemand. Ceux-là ont inventé que Freud avait inventé une langue qui est le freudologue, le freudien. Donc c'est tout à fait délire.
Oh, so all these different. There's as many scientific schools as there are for translations of Freud in France. So there's actually a Lacanian. Faithful translation via the German. There's the invention of phrenological language. There's Laplanche and his team.
Alors, aujourd'hui, quand j'ai commencé à écrire Freud, on dispose en France maintenant, si on a toutes les versions, on a une bonne traduction de Freud.
Moi, j'ai need to put all the versions together.
On finit par choisir. Voilà. Nous avons, c'est ce que nous disons en France, il y a une traduction Gallimard, réalisée par Pontalis, qui est bonne. Parce que chez Gallimard, il a pris des germanistes pour traduire. Il a pris des traducteurs, qui parlent allemand, qui comprennent l'allemand. La planche, c'est une équipe de gens qui ne sont pas journalistes, ou très peu, qui ont eu l'idée qu'il y avait une langue freudienne qui n'est pas l'allemand.
There's a contrast between the Pontalis approach with Gallimard publishers, which is good because it's a serious work of translation with professional translators, and the La Planche team approach, which
qui est la traduction PUF. PUF. Presse universitaire de France. Cette traduction de La Planche a un avantage, c'est l'appareil critique qui est très bon.
But there's an excellent critical apparatus which comes with the La Planche translation.
Donc, l'appareil critique des PUF, plus les traductions Gallimard, plus des tas d'autres traductions intéressantes, ça va. Mais il faut qu'on fasse soi-même un travail critique. Et il y a aussi les anciennes traductions par Marie Bonaparte, qui ne sont pas mauvaises. Donc, aujourd'hui, il faut tout prendre, faire son choix. Et comme Freud, maintenant, est dans le domaine public, j'ai travaillé, moi aussi, avec Jean-Pierre Lefebvre, germaniste, et nous avons fait un volume, ensemble, la moitié de l'œuvre de Freud, pour le seuil. La moitié de l'œuvre de Freud. Les écrits littéraires et philosophiques. C'est aussi une autre approche.
But maybe, and that, then I'm really going to open it to the audience. I mean, maybe it's not all that different from the situation we're facing in the Anglophone world. Despite the fact that most people still refer to the standard edition, we now have other translations under the general editorship of Adam Phillips. And some people refer those because they render Freud's literary qualities much better than Strachey would ever have considered. Because Strachey, of course, was animated by a desire to convey a scientific Freud. Right? As a result of which, we get these odd words, cathexis. What's that, right? Well, Freud says Besetzung. Well, you know all that, you know.
Je suis d'accord,
right?
Mais...
And so Bettelheim says, you know, Freud's soul. So I think maybe the same in English, that we have to cobble together our own version of Freud on the basis of the different renditions that actually exist.
Nous, Français, on a dans la bibliothèque l'œuvre de Freud en allemand. La standard, en anglais. Et toutes les versions françaises de Freud. D'accord? Avec ça, on se débrouille. Bon. J'ajouterais que les correspondances de Freud en français sont très bien traduites. Donc, on se débrouille. Voilà. Et pour écrire le Freud, j'ai travaillé tout de même avec un éminent germaniste, Olivier Manoni, parce que dès que j'avais un problème, regardez le texte de Freud en allemand. Je connais suffisamment pour... Non, je regardais la version de la standard de Strachey, puis les différentes versions françaises.
So she worked with all these versions of... all these French translations of Freud, plus the... the German plus the help of a Germanist.
Alors, par exemple, j'y tiens beaucoup, mais il y a dans l'étude du cas de Karl Liebmann, le fétichiste, tu connais ce patient dont il parle dans cet article, c'est Karl Liebmann, Freud, bien. Et il s'est trompé. C'est pas le fétiche de la mère, c'est le fétiche du père. Autrement dit, dans les traductions, on s'aperçoit que Freud explique que le fétiche, ce patient fétichiste, mettait une gaine de femme pour dissimuler son pénis. Et que cette gaine de femme, c'était une culotte, c'était quelque chose qui était pour dissimuler son pénis. Or, Strachey s'est aperçu dans la traduction que c'était le contraire. C'est-à-dire que c'était une chose qui, au contraire, mettait en évidence le pénis, et c'était un slip pour les sportifs qui, au contraire, coquent.
So, in a paper on fetishism, and Elisabeth spends quite a long time, several pages, really interestingly, in the book around.
Well, I'm tempted to say we shouldn't translate what you've just said. We should just invite people to read the relevant pages in the book, which I thought were absolutely, absolutely fascinating. No, it's unfair. It's unfair. And I will retract what I just said. Okay.
Let's just translate the two keywords: jockstrap and girdle, and the transposition of that. That changes. You can imagine really changes the meaning.
Strachey a compris. Il a mis le terme latin. Alors après, les nouveaux traducteurs de Freud aujourd'hui, comme Olivier Maloney, pardon. J'ai vu qu'il avait compris l'erreur, parce qu'il a comparé le texte allemand, le texte anglais, et moi, j'ai comparé avec ce que Karl Liebmann dit de lui-même. C'est une histoire fascinante.
No, I totally agree.
Yeah, can we have a translation?
Yeah, well, Elizabeth explains how in comparing Freud's original text on fetishism with Strachey's translation and her work with a Germanist, Olivier Manoni, she realized certain mistakes that Freud had made in his description of the case. And the example here, which runs over at least four or five pages in the book, and which is absolutely fascinating for other reasons as well, because it's a case of Freud's that is rarely discussed, I have to say, in any great detail. But the example here serves the purpose of showing how, in the clash or in the conjunction of translations, one can actually discover something new, something in the collision, that's the word I was looking for, in the collision of languages, the original and the translation, as a historian one can can discover something that had never been disclosed or revealed before.
Yeah.
So that's the point.
C'est intéressant parce que le problème de ce garçon, Freud dit, le fétiche, c'est le pénis de la mère. Ben non. C'est le pénis du père. Et Karl Liebmann, à la fin de sa vie, qui revendiquait son analyse avec Freud, disait « Je suis le pénis du père ». Ça, or Freud n'est pas très clair dans sa transcription, puisqu'il est convaincu que dans le cas de fétichisme, c'est forcément le pénis de la mère. Sauf que c'est pas clair. Et ça, c'est dans la langue qu'il faut le repérer.
So, you need to trace these contradictions in language, because Freud, of course, in his work on fetishism, speaks of the penis of the
Well, he speaks of the fetish as the painfully missed, prehistorically postulated penis of the mother. Whereas in the collision of languages and translations here, it became clear, also in Elizabeth's study of Karl Liebmann's own recollections, that Freud had substituted the mother for the father.
Et Strachey avait compris, hein, parce qu'il savait que dans les sportifs des campus américains, on mettait une coque qui préservait le sexe. Et c'est ça qu'il avait sous son pantalon. Et pas du tout une gaine.
So Strachey, in the way he renders the original Freudian text, had somehow understood that Freud's interpretation was misguided, because he chooses a word in his translation that captures more accurately the actual what the actual case study reveals. I think we should leave it there because I think you need to read the pages in the book in order to fully grasp the extent of the point that Elizabeth is making. But I think it's an excellent example of how, as I said, in the collision of languages, something can happen that can generate a completely new view on the original.
Alors après, Catherine Porter a fait un gros travail.
Oh, the translation is absolutely yes.
Elle a repris les textes allemands de Freud.
I think you have been extremely well served by your translator.
Et moi, je vérifie chaque fois le texte allemand.
Right, okay. So, this took much longer than I wanted to take, but I do want to give you the opportunity to ask questions. You can ask your questions in French or in English, and we'll do our best to translate.
I understand that Freud didn't let anybody analyze him. You know, some aspects of himself from the interpretation and dreams and the other associations and letters. But you mentioned something very interesting, his battle with himself. Mm-hmm. And I'm interested in the period of 1934 when he wrote the book on Moses. Mm-hmm. And he wrote it in 1934 and he wouldn't publish it until 1939. Mm-hmm. How there was a lot of bashing him at the time, from Yerushalmi and the other Jews, scholars. They called him an ignorant person, and I was wondering, how did he live with his adoration of Moses? Was there confusion? He saw in the beginning, he saw Moses as of Michelangelo. And then he saw Moses as the Moses of the Bible. One more point. And also his conflict with Zionism and Einstein has to urge him to do something for the cause. And how he arrived to harmony with himself. And how did he live his later life?
Cette lutte contre lui-même. Elle est intéressée à cette vision du Moïse de Freud. C'est une contradiction dans ce Moïse-là de 1934 avec celui de Moïse de Michelangelo. Je pense que aussi au fond une question de Freud et sa judaïté aussi.
Bien sûr.
Qui sous-tend la question.
J'en parle tout le temps dans le livre, les deux Moïse de Freud. C'est contradictoire. Et la question de la judaïté de Freud, j'ai tenu à l'aborder en permanence. Pas seulement à propos de Moïse. Moi, j'aime beaucoup le livre de Yerushalmi.
So, in fact, this question of the opposition between the two Moseses of Freud is a theme that is running through the book. And she's also been thinking seriously about Freud's relationship to his Judaity. And in fact, Elisabeth is a great admirer of Yerushalmi's book.
Je dirais que Yerushalmi a une raison d'aller très loin dans l'étude du rapport de Freud au judaïsme. Puisque Freud disait je lis pas l'Yiddish, je lis pas l'hébreu, je n'y connais rien. Yerushalmi ramène l'idée que le judaïsme n'est pas si absent que ça de la pensée de Freud, notamment dans son rapport à Brise.
Right, so Yerushalmi has shown in this book that actually this engagement with is not absent, even though Freud denies it. I don't speak Hebrew, I'm secular, and so forth. That Yerushalmi has shown that there is actual relationship.
Donc, il rejudaïse Freud, non pas du point de vue de la religion. Hein.
But however, Yerushalmi rejudaïsizes Freud.
Il met pas en cause l'athéisme.
Mm-hmm. Without as much making Freud religious, because he was secular.
Il connaissait beaucoup mieux le judaïsme que ce qu'il disait lui-même. Bien. Mais je crois que j'en avais parlé d'ailleurs avec Yerushalmi. Je crois que il voulait pas admettre, il voulait pas voir complètement à quel point Freud était hostile à la création d'un État juif en Palestine.
But actually, what Yerushalmi didn't understand is the degree to which Freud was actually hostile to the creation of a Jewish country, Jewish nation in Palestine.
It was not hostile.
C'est pas sa question. Sorry.
No, elle dit qu'elle oui c'est ça.
Elle n'est pas d'accord.
Elle n'est pas d'accord que Freud était
aussi. Non, est-ce que vous avez pardon, madame, vous avez lu les textes originaux en allemand de Freud sur cette question? Est-ce que vous les avez lus?
Yeah,
les deux lettres de Freud.
But in
de 1930.
But actually Freud's two letters on this question in German make this quite clear that he was that it was more than apprehension. He was actually against.
En tout cas, Yerushalmi les avait lus.
But Yerushalmi read them.
Donc,
not Yerushalmi.
Ah,
non.
Oh,
mais
inaccuracy. Yeah. Oh, that she's also elle parle aussi de la correspondance avec Einstein.
Absolument. Tout est cité. Nous sommes d'accord sur les choses. Ouais. Alors maintenant, à la fois Freud était fier de la création d'une colonie en Palestine, une colonie juive, favorable. Il était favorable depuis la déclaration de Balfour.
He was actually favorable to the creation of a Jewish colony in Palestine after the following the Balfour Declaration. So he had.
I mean, the English word would be settlement rather than colony as such.
Yes.
And the French would translate settlement as colony.
En même temps.
Which doesn't have the same connotations as the English word colony.
Deux lettres, l'une à Einstein et une autre en 1930. Que je cite à un Israélien, enfin un juif de Palestine, où il explique qu'il est absolument contre la création d'un État juif en Palestine. Mmh. Je dis bien d'un État. Mmh. Et il écrit que si cet État, on est en 1930, hein, et il dit que si un jour cet État existe, ça voudra dire qu'il y aura une guerre religieuse infinie, que jamais les Arabes, n'accepteront cet état de fait, et que C'est pas la peine de se battre, dit-il, pour un petit pan de mur d'erreur.
So that's the, actually this is a very famous letter that...
Et cette lettre...
But where he says that... there's a whole history to this letter where Freud writes in 1930 that he was against the creation of a Jewish nation in Palestine because the Arabs
it would trigger an eternal war.
These eternal hostilities and
cette lettre-là, pas celle d'Einstein, cette lettre-là, c'est encore plus clair, a été dissimulée dans les archives à Jérusalem, et j'ai été la première à la traduire, depuis l'allemand.
Yeah, and she was one of the first translator of this letter from German, and it wasn't actually in the archives in Jerusalem for...
Je l'ai fait traduire. Par Jacques Rinder, pour être au plus près du texte. Et Yerushalmi la connaissait, cette lettre. Voilà. Et comme il était un très grand historien, honnête, il disait oui. Mais, qu'aurait-il dit après le choix?
So Yen Shenmi knew of this letter, and he knew it, and he said, well, yes, that's true. Because he was a historian, but his retort to this, what would have Freud said after the show?
Dans la discussion que j'ai eue, il y a eu une discussion là-dessus avec Derrida et avec moi. Et j'ai dit, qu'aurait fait quelqu'un après sa mort dans une autre situation? C'est une question qui ne peut pas être posée par un historien.
But that's, in fact, that's not a question that a historian could ever pose. What would a person to speculate as to what a person would have done after his death? It's absolutely completely unanswerable. What would he have done?
Il faut même pas la poser. On attaque. Deuxièmement, Yerushalmi ignorait, et c'était une grande question chez lui, dans sa rejudaïsation, de Freud, mais une rejudaïsation identitaire, hein, pas religieuse. Il ignorait que Freud n'avait pas fait circoncire ses fils.
That's another point, actually, that in Yerushalmi's attempt to re-bring Jewish identity, revalorized Freud's relationship to his Jewish identity, actually did not know the fact that Freud refused to have his son circumcised.
Il n'est pas allé à l'état civil de Vienne vérifier. Parce que sur l'état civil de Vienne, c'était marqué avec un... Quand un enfant était circoncis, c'est marqué sur l'état civil. Merci. Bon. Et...
It's possible to know this in the archives, in the état civil.
Et donc, donc maintenant on a l'archive, il n'a pas fait circoncire. Or, dans sa correspondance, il ne le dit pas, ses fils ne l'ont jamais dit, c'est-à-dire, ils n'étaient pas circoncis.
So that's actually a fact that wasn't known, because nobody wrote about it or discussed it.
Même pour des juifs non-croyants, ce qui était le cas, il est allé très loin.
So, actually, that's going very far, even for a complete an atheist Jew. It's actually really taking a strong position now.
Va contre la famille de sa femme.
And he's actually directly opposed to his wife's family, and his wife and her family.
C'était rarissime. Même quand on était juif, non juif, hein, c'est-à-dire des judaïsés. Lui, il va très très loin. Ça, moi, j'ai découvert après. Donc, ça allait dans le sens plutôt de Peter Gay. Alors, ça, c'est des débats passionnants. Parce que, à la fois, Yerushalmi avait raison d'étudier de très près le rapport de Freud au judaïsme, pas à la judaïté, et d'un autre côté, on avait raison de dire attention, pas trop loin, quoi.
C'est un really interesting debate.
Parce que Yerushalmi aurait bien voulu que Freud soutienne en 1930 la création d'un État juif en Palestine, ce qui n'est pas le cas. D'accord ? Voilà. Ça, c'est des discussions qui me passionnent. Des discussions interprétatives, pas psychanalytiques, hein.
I'm going to be very authoritarian here, and I know that quite a few people still want to ask questions. Let's take another 10 minutes maximum.
We'd like to hear the answer to that one too.
So sorry.
Just the translation of that.
Is the last bit,
right.
lost track a little bit. So.
Yeah, I've lost track as well now.
The historian would have liked to have shown proof that Freud supported the creation of the state.
Thank you
so much. Yes.
Thank you. So, if you can keep your questions really short, and maybe Elizabeth can answer even more succinctly, then. I have one question here, and then I'll come to you, sir. Okay. So,
given that central absence of Freud in French psychoanalytic thinking, are you this work, which I have had the pleasure of reading, is a work of great passion. Are you tempted or inclined to write about your own experience in this historical narrative in France? I'm intrigued to learn about you from what you said this evening. Is that a project you feel inclined to write?
Est-ce que c'est un projet qui t'intéresserait d'écrire sur ta propre position dans tous ces débats de
To putting Freud back in the picture in France, I find it fascinating what you said this evening in that context.
But she's written a book called Genealogies, which hasn't been translated into English. I think it's one of the very.
Là, je publie un dictionnaire amoureux de la psychanalyse.
Yes, and she's just published a book called. Dictionnaire amoureux de la psychanalyse.
C'est une collection très connue en France, où toutes les entrées sont à la première personne.
So, yes, so it's very personal, just like Genealogies was.
Là, je raconte.
So, in that book, she talks about a lot of the issues that she's brought tonight as well.
Je raconte sous des formes de voyages, de rencontres, de. Un petit peu, mais c'est pas des mémoires. Hein.
So, it's encounters, travels, passions.
Mais c'est une vraie question. On écrit des mémoires quand on se sent très vieux.
You said.
Mine's quite simple.
We have a roving microphone with Steph attached to it.
It's a quite simple question. When you completed the book, did you like Freud more or less? Was there anything about him that really shocked you? Did you discover anything that really shocked you? So it's sort of two questions.
So when she finished the book, did she like Freud more or less?
Est-ce que tu aimais Freud plus ou moins la phase de Walt Disney?
Mais j'aime le mien.
She likes her own version of Freud.
Yeah. No, do you like Freud as a person?
Yes.
Not your book.
Her own version of Freud. She likes her own person of Freud.
Je sais qu'il y en a d'autres. Mais encore un mot sur ça. J'ai tenu dans. D'abord, j'aime beaucoup Freud, bien sûr. Mais j'aime aussi donner tous les défauts de Freud. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de moments terribles où Freud est épouvantable. Mais j'ai tenu à traiter les premiers Freudiens, c'est-à-dire tous les disciples, sans caricature.
So she's it's a real warts and all version of Freud. So there's lots of moments where Freud is just acting really badly and it's terrible. But she's also wanted to present the first generation of companions and disciples without turning them to caricatures, which is often the temptation that might be the case. That's you know, as real human beings with their
Je ne suis pas pour Jones contre Ferenczi, je ne suis pas pour Ferenczi contre Jung, je suis pas. Je les ai tous traités historiquement.
So she's presented them all without saying, well, Jones, pro Ferenczi, etc.
Il y a des gens qui vont dire, vous savez, les Jungiens me considèrent comme une anti-Jungienne et les Freudiens comme une Jungienne. Bon, c'est voilà. J'ai tenu, par exemple, à montrer de façon très précise la tragédie qu'a été la rupture entre Freud et Jung.
So, you know, in the same vein, it's not like some Jungians might object and say that she's anti-Jungian and vice versa. That's what she's... But she also wanted to show in the treatment of that is that there's actually a tragedy, the kind of split with Jung. For both of them, it was
Jung, c'est à la veille de la guerre de 14.
Donc,
ensuite, Jung sombre dans la mélancolie après cette rupture, je le dis, et Freud va très mal.
So it's just at the cusp of the 1914, the First World War, and both it affected both of them. So Freud plunged into a melancholic state, and Freud was also really bad in a bad way.
J'ai pas fait un méchant Jung et un bon Freud.
It's not a question of bad Jung and a nice Freud.
Et en même temps, ensuite. Pendant l'entre-deux-guerres, quand même, Jung devient nazi.
So she also really showed Jung's anti-Semitism during the lead up to the Second World War. Is that it? Mm-hmm. She discussed that in the book.
Ni Jung ni Freud savaient que Jung est antisémite avant 1914. Mm-hmm.
Yeah, but Freud was aware of this, these aspects.
C'est très étrange. Et il voulait un non-juif, je dirais même presque antisémite, pour diriger son mouvement. Parce qu'il avait une peur terrible, c'est que la psychanalyse soit considérée comme une science juive.
So he really didn't want to, he was really very sensitive to this question of psychoanalysis being considered a Jewish science. So it was so important to him to have this non-Jew as the head, who has these anti-Semitic, almost anti-Semitic, quasi tendencies.
Et donc, as
the head of his movement.
Donc j'ai traité les drames des ruptures et la tragédie de l'histoire.
So there was a drama. So what she tried to capture is the drama of all these splits and the tragedy.
Parce que tout de même, la vie de Freud, c'est la guerre de 14. Et ensuite la montée du nazisme,
In fact, elements that were so important in Freud's life, the Marxist life, was the First World War plus and followed by the rise of Nazism.
Pour Freud, la destruction de l'Europe.
And the destruction of Europe.
C'est la catastrophe.
And it was a catastrophe for him and all. Yes, that comes across in the book.
Pour lui, c'est un désastre que la psychanalyse devienne américaine.
So the disaster that the psychoanalysis has become so Americanized, and partly related to these factors that the migrations that were imposed by this history, and that was a disaster.
Il pense qu'elle peut être sauvée par l'Angleterre.
That it may, but he also thought they might be saved by England.
Là, il se rapproche de Jones, et Freud devient anglais. Enfin, en tout cas, Anna Freud.
The psychoanalysis becomes English at that point.
Il avait un amour de l'Angleterre, absolument considérable. Donc il se trompe. Enfin, voilà. C'est comme ça que Freud est devenu anglais. Enfin, en tout cas, c'est pour ça qu'ensuite on lit plus l'œuvre de Freud en anglais qu'en allemand aujourd'hui. On lit plus l'œuvre de Freud en anglais qu'en allemand.
Sorry, we were talking amongst ourselves
in fact, Freud has become an English Freud, an Anglo-American Freud, and more people read Freud in English than they do in German. So that's a fact of how things play out.
I think we need to draw the evening to a close. Although, as I said at the beginning, Elizabeth is happy to sign copies of her book downstairs in the bookshop, should you wish to purchase them, or should you already have your copy and want it to be signed, then I'm sure she'll be happy to do so as well. Did you say thank you well?
Thank you very much.
Oh, so, oh, wow. I was going to invite you to do this, but it arrived spontaneously, which is even better. I'm sure that in a couple of years' time, if not before, we will be able to welcome Elizabeth again to the museum when her lover's dictionary of psychoanalysis is we don't shy away from personal discussions in this house.
Il y a une entrée sur Londres.
Ah, voilà. So, as soon as that book is translated, I'm sure there will be another event. But in the meantime, I'd say enjoy this fantastic piece of work. And I'd like to thank Elizabeth again for joining us tonight.